BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Olivier Salustreau, merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. La question, Olivier Salustreau, il y a plein de questions, parce que j'imagine que pour ceux qui nous écoutent, vos propos vont être précieux. D'abord, est-ce qu'il faut s'attendre à des comptes extrêmement noirs, déficitaires?
Écoutez, probablement que les comptes 2020 seront très loin des comptes 2019. Hein. Je rappelle que l'impact du Covid-19 ne doit pas figurer dans les comptes 2019, mais bien dans les comptes 2020. Et probablement que l'activité manquante des 3 mois de confinement aura un impact majeur, tout comme une reprise qui s'annonce difficile, qui est controversée, qui est pas très claire. Et donc, je pense que l'année 2020 sera une année mauvaise pour les comptes des entreprises.
Alors justement,
sauf cas particuliers, bien sûr.
Bien sûr, il y en a certains qui en ont profité. Voilà. Pas beaucoup, vous avez raison de le souligner. Comment va s'inscrire cette crise dans les comptes? Quel type d'informations, j'ai envie de dire, devant l'ampleur du choc, comment est-ce que les entreprises peuvent traiter à tel, enfin c'est vous en l'occurrence, c'est le commissaire aux comptes, mais évidemment avec poussée sous la baguette des chefs d'entreprise, comment est-ce que ça va être traité?
Alors écoutez, il y a deux aspects à voir. Il y a un aspect qui est celui du compte de résultat, donc le film de l'année. Là évidemment le chiffre d'affaires va baisser. Les charges peut-être vont baisser également et puis vont bénéficier des mesures gouvernementales, des décalages de charges et puis les mesures de chômage partiel vont permettre d'alléger ces charges, ces coûts fixes. Ça c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect c'est l'aspect du bilan. Les actifs des entreprises vont devoir être peignés à l'aune des perspectives, et la difficulté c'est précisément de dessiner ces perspectives, de faire des plans d'affaires prévisionnels pour valider ou invalider les valeurs de ces actifs. Donc peut-être on va avoir des fonds de commerce, des goodwill qui vont être dépréciés, peut-être qu'on va avoir des stocks également dépréciés, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on est quand même dans une période de forte incertitude. Même si on est sorti du confinement, l'incertitude demeure.
Ah oui, et l'incertitude, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Alors, vous, les commissaires aux comptes et les chefs d'entreprise, mais eux, ils ont souvent, ils arrivent à gérer, à composer.
Effectivement, le commissaire aux comptes n'aime pas l'incertitude. Oui. Et quand il n'aime pas l'incertitude, il le dit à travers son opinion. Là, en l'occurrence, on fera preuve de plus d'intelligence encore que d'habitude par rapport à ces incertitudes.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plus conciliant? C'est ça que vous voulez dire?
C'est pas qu'on est plus conciliant, c'est qu'on regarde les choses avec une attention différente. C'est que quand on nous présente des prévisions, on va accepter qu'on nous présente différents scénarios. Et quand on va mettre en œuvre la machine d'évaluation de ces prévisions, on sera pas jusqu'au boutiste et... là où on aura intégré des risques dans un plan d'affaires, on viendra pas, par exemple, dans le taux d'actualisation, je m'arrête de jargonner, on ne viendra pas réinscrire un deuxième niveau de risque. On n'aura pas un double effet.
Et dans ces cas-là, pardonnez-moi, mais comment ça se passe? Ça veut dire, est-ce que vous avez des instructions? Vous donnez des instructions, mais il y a des instructions. Vous voyez, qu'est-ce qui décide de...
Alors, en fait, on a...
De cette intelligence, entre guillemets, que moi j'appelle compréhension, dire ça comme ça.
Alors, en fait, on a différentes autorités. Vous avez l'autorité des normes comptables. Oui. Vous avez l'AMF,
l'Autorité des marchés financiers.
Voilà, ces régulateurs ont publié une série de recommandations et d'observations qui nous donnent des lignes directrices que nous déclinons ensuite avec les entreprises et qui nous permettent justement d'avoir cette compréhension et cette intelligence de la situation en examinant les choses de manière calme et tempérée, en n'étant pas jusqu'au boutiste, en n'étant pas alarmiste, mais en étant tout à fait rigoureux. Et quand on ne sait pas mesurer quelque chose, on le dit.
Mais par exemple, si je prends l'exemple du gouvernement, le gouvernement, on a appris que la fameuse dette Covid pourrait être sortie dans une société, elle pourrait être cantonnée quelque part dans une sorte de bad bank. Enfin, on n'en connaît pas les modalités, mais c'est une des possibilités. Idem, une sorte de foncière qui serait créée. Donc, tout le monde est en train de créer ça. Mmh. Pour les entreprises, ça, c'est pas acceptable, c'est pas possible. La dette qui a été, des emprunts, des crédits de trésorerie, il n'y aura pas de dette Covid pour les entreprises.
Alors, il y a des dettes qui ont été contractées sous l'égide du PGE, bien sûr, mais pour l'instant, ces dettes pour l'instant, n'ont pas été remboursées et on ne sait pas si elles seront remboursées ou pas.
Oui, mais justement, leur traitement dans les comptes, comment fait-on ? C'est vrai qu'il y a plein de questions, en fait.
Comme un emprunt normal, en fait, on inscrit la dette au passif du bilan de l'entreprise. Voilà, le jour où elle est incapable de rembourser la dette, à ce moment-là, on en tire des conséquences sur le plan de la continuité d'exploitation. On peut être amené à déclencher une procédure d'alerte, on peut être amené à emmener l'entreprise au tribunal de commerce pour qu'elle trouve une conciliation, une médiation ou que sais-je, ou s'adresser au médiateur du crédit d'ailleurs. Mais pour l'instant, les dettes contractées pendant la crise sous l'égide du DPGE...
Il n'y a pas de traitement particulier.
Il n'y a pas de traitement particulier, sinon qu'on indique dans l'annexe au compte qu'une partie de ces emprunts ont été garantis, contre-garantis par l'État, en fait. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en œuvre de ces garanties en tant que telles, puisqu'il n'y a pas eu de défaut majeur.
D'accord. Olivier Saint-Justreau, c'est par exemple, quand il y a c'est de ce prêt garanti par l'État. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui pourront ne pas être en mesure de rembourser ce prêt garanti par l'État. Donc, l'idée sur laquelle travaille le gouvernement et le président de la République, je crois, c'est de faire basculer ça à ce qu'on appelle en quasi-fonds propres.
Oui.
Une manière de renforcer le capital. Ça vous paraît nécessaire ? Est-ce qu'on peut dire toujours que les entreprises françaises sont très sous-capitalisées ? C'est un mot dont on parle depuis que je suis jeune journaliste, donc ça fait très longtemps.
Pas si longtemps que ça, mais non, effectivement, c'est une remarque structurelle qui perdure en France. Les entreprises sont notoirement sous-capitalisées, les capitaux propres sont insuffisants. C'est d'ailleurs pour ça que les mesures gouvernementales ont été les bienvenues pour aider les entreprises à traverser cette période de vide pendant la crise sanitaire. Pour autant, la conversion en quasi-fonds propres peut-être intéressante pour ces entreprises, mais à ce moment-là, qui détiendra les quasi-fonds propres ? Est-ce que ce sont les actionnaires actuels de l'entreprise ou est-ce qu'on va avoir une espèce de nationalisation des dettes en question ?
On est plutôt parti là-dessus. Quelles sont les informations à communiquer pour les entreprises ? Là, c'est sûr, on est un peu dans la technique financière, mais c'est intéressant de voir comment on traduit la traduction de la crise sanitaire dans les comptes.
Alors en fait, ce que l'entreprise doit dire à ses lecteurs, hein, aux lecteurs des comptes, c'est comment elle s'est organisée pour gérer cette crise, comment elle a utilisé les dispositifs gouvernementaux, comment elle s'est mise à la cape, si besoin était, pendant cette période difficile, et comment elle compte rebondir et quels dispositifs elle va mettre en œuvre pour rattraper la croissance, si la croissance revient, par exemple, à l'automne, hein, puisque on parie beaucoup sur un rebond fort après l'été. Donc, comment l'entreprise se met en devoir de pouvoir capter ce rebond de l'économie.
Et comment se porte votre profession ? Est-ce que c'est une des rares professions qui profite de la crise de Covid ? Parce qu'on a, vous êtes plus sollicité parce que l'exercice est plus compliqué.
Alors, les commissaires aux comptes sont fatigués parce que ils ont été.
C'est ça, vous avez été très sollicité.
Oui, ils ont été au chevet des entreprises pendant toute cette période difficile. D'abord pour expliquer toutes les mesures qui ont été prises, et Dieu sait s'il y en a eu de nombreuses. Et donc, il a fallu expliquer, il a fallu se rendre au chevet des entreprises tout de suite, dès la déclaration de la pandémie, c'est-à-dire dès mi-mars, en fait, pour voir comment les entreprises allaient justement s'organiser pour passer cette période difficile. Et donc, on les a accompagnés régulièrement pendant toute cette période, et on continue d'ailleurs, puisque, vous le savez, le gouvernement a repoussé de 3 mois la date d'approbation des comptes. Hein, on a jusqu'au 30 septembre, les entreprises ont jusqu'au 30 septembre pour clôturer leur compte 2019. Et donc, on est encore très fortement sur le terrain, mobilisé pour gérer.
Et pourtant, comme vous le dites, le 2019, ça ne doit pas prendre en compte la crise.
Non, voilà. Ça ne doit pas prendre en compte la crise, mais ça doit expliquer comment l'entreprise s'est mise en disposition de la surmonter.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu le grand scandale, ça sera ma dernière question, Olivier Saint-Justreau, il y a eu ce grand scandale en Allemagne de Wirecard, où il y a 2 milliards quand même qui ont disparu, que les commissaires aux comptes, n'ont pas vu. Ça peut arriver, ça, ce genre d'affaires en France ? Et c'est grâce à des journalistes du Financial Times que ça a été découvert.
Oui, j'ai vu.
Vous avez regardé, j'imagine, oui.
Bien sûr. Nous suivons l'affaire très attentivement. Alors, je ne vais pas répondre sur le fond de l'affaire, parce qu'il y a tout un tas d'enquêtes en cours et je ne connais pas le dossier personnellement. Pour autant, on peut quand même dire qu'il y a des différences entre l'audit en France et l'audit en Allemagne. Vous savez qu'en France, il y a le double commissariat aux comptes, le joint audit. Vous savez qu'on a un régulateur qui est très puissant en France, qui est indépendant, qui est une autorité indépendante, qui a un budget qu'elle lève elle-même, alors qu'en Allemagne, l'autorité de contrôle dépend du ministère de l'économie. Vous savez que le marché de l'audit en France n'est pas un oligopole aussi resserré qu'en Allemagne, puisqu'en Allemagne, vous avez deux ou trois cabinets.
Gros cabinets, comme genre. Oui.
Voilà, et puis vous avez une culture en France de l'audit qui est différente de celle des Allemands. Donc,
remarquez, vous m'auriez dit oui, ça peut arriver en France. Je pense que j'aurais été très très surprise. Il y a des différences culturelles importantes que vous avez soulignées.
Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Non. Je dis qu'il y a moins de chances que ça arrive.
D'accord, intéressant.
Mieux protégé en France, même si la loi Pacte a quand même détricoté la séparation entre l'audit et le conseil, qui est quand même un élément inquiétant.
Et on va pas la refaire parce que c'est vrai que elle nous paraît bien loin, cette loi Pacte. Merci beaucoup Olivier Salustreau d'avoir été avec nous. Donc le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Merci d'avoir été là. Dans un instant, on parlera, il y avait la pandémie sanitaire, mais il y a la pandémie des fake news. On en parle avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Je vous le disais, il y avait donc la pandémie sanitaire, maintenant il y a la pandémie des fake news, les deux sont liés. Pourquoi? On voit ça tout de suite avec celui qui est le président de la Villa Numéris et un think tank qui réfléchit justement sur toutes ces questions et qui publie S'informer demain, lutter contre le virus des fake news. Et c'est donc dans la collection en ligne et après aux éditions de l'Observatoire. Je vais y arriver. David Lacomblède, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là en studio. C'est vrai que les fake news, on a l'impression qu'on n'en a jamais autant. Il suffit de voir le virus lui-même, qu'est-ce qui s'est passé, pas passé, est-ce que c'est contagieux, à partir de quand, enfin, les fake news, on a été envahi de fake news.
Alors, il faut voir qu'on a été envahi d'informations.
Oui, aussi.
Plus d'un article sur deux, une minute sur deux en télé ont été consacrés au coronavirus. Et comme Internet est devenu le principal vecteur d'information, c'est aussi devenu le principal vecteur des manipulations de l'information. Et c'est vrai qu'à chaque crise, il y a une explosion. On a l'impression qu'il y en a toujours plus. Si vous regardez les Gilets jaunes, on avait déjà le sentiment qu'il y avait beaucoup de controverses, de manipulations à des fins idéologiques. Et là, effectivement, on a une explosion supplémentaire. Pour une raison très simple, c'est que les fake news sont partagées plus vite, plus rapidement que les informations vérifiées. Donc le match devient un peu inégal pour des médias
Pourquoi
traditionnels.
Elle circule plus vite? Parce qu'à la limite, une information, elle peut, même si elle est véridique, elle peut circuler très vite.
Oui, mais parce qu'elles sont rigolotes, elles nous sidèrent, et elles nous sidèrent tellement qu'on a envie de les partager. Mmh. Et d'ailleurs, je vois bien que c'est une fausse information, on ne me la refait pas, sauf que j'oublie qu'en la partageant avec mes amis, mes collègues, je donne de mon crédit, et ça devient mon information, et c'est comme ça que vous retrouvez avec des choses assez grotesques, parfois risibles, et parfois plus dangereuses.
Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est le fait de la retransmettre, en fait, ça crédibilise cette fake news.
Exactement. Vous parliez de virus, effectivement, on est dans cette analogie où ça se passe de bouche à oreille, mais de bouche à des millions d'oreilles.
Vous dites qu'il faut des gestes barrières. À la limite, j'ai bien aimé le parallèle que vous faites entre la pandémie sanitaire et la pandémie des fake news. Et puis, donc, il y a des gestes barrières. Et puis là, il y a des gestes barrières à avoir pour empêcher justement ces fake news. Donc, déjà, ce n'est pas la retweeter ou la relaquer.
On voit bien que pour les virus, du coronavirus, les gestes barrières qui consistent à se laver les mains et avoir une distance sont les premiers gestes et les plus efficaces, qu'il l'aurait dit. Et effectivement, pour lutter contre les fake news, on est un peu dans le même cas d'école. Peut-être retourner cette fois dans sa messagerie WhatsApp ou son fil Twitter ses messages avant de les poster. les vérifier, ne pas croire tout ce que l'on voit et ne pas voir tout ce que l'on croit.
Oui. Il y a combien de fake news? Alors, je citais des chiffres, je crois que c'est de mémoire, il y a 84%, 85% des gens qui disent avoir été confrontés à des fake news. Et vous, vous dites, oui, mais parce que ces autres, ils ne se sont pas rendus compte que c'était une fake news. Oui.
Alors, effectivement, tous les sondages que l'on peut faire régulièrement montrent que 9 Français sur 10 ont conscience d'avoir été piégés. On peut craindre que le 10e ne l'ait pas vu. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que 6 Français sur 10 déclarent avoir déjà partagé des fake news en conscience. Et d'ailleurs, je vous renverrai vers une étude de Harvard cette semaine, montrant que les personnes les plus âgées sont celles qui partagent le plus, parce qu'elles sont un peu moins attentives et qu'elles le partagent plus rapidement, in fine.
Or, ce que vous dites, en fait, on voit bien, c'est que d'abord, les démocraties ne mesurent pas l'ampleur de ce phénomène des fake news. Deux, des régimes plus totalitaires, et on voit bien que ça soit sur le dossier du Brexit, que ça soit sur l'élection de Trump ou contre Hillary Clinton, on voit bien qu'il y a certains pays quand même qui utilisent ces fake news, et donc c'est vraiment devenu un outil de propagande. Qu'est-ce que doivent faire les démocraties, justement, pour en prendre conscience? Et puis, il ne suffit pas de prendre conscience, il faut lutter contre.
Alors, ce qu'on entend par fake news, on est bien dans une information qui est manipulée volontairement à des fins mercantiles ou idéologiques. Et sur le point de vue de l'idéologie, on a la Russie qui, historiquement, a fait de la manipulation de l'information, la propagande, une arme de guerre, et l'URSS avant. Le fait nouveau avec la crise, c'est que la Chine semble aussi mettre à profit la maîtrise de l'information pour, un, vendre la prétendue efficience de son régime, et deux, masquer aussi ses propres errements. Et d'autres pays vont y venir, parce que ça coûte moins cher que d'investir dans les manipulations de l'information que dans des armes conventionnelles, avec somme toute peu de risques, si ce n'est de se faire rappeler à l'ordre par les pays dans lesquels vous agissez. Ça a été le cas de l'ambassadeur de Chine qui a été convoqué une fois.
Ça n'a rien changé, mais bon.
Et c'est vrai que notre passivité, celle des démocraties, encourage ces régimes à continuer.
Oui, puis en plus, on se souvient quand même des propos très forts d'Emmanuel Macron au moment où il a été élu, parce que lui, il a été un des premiers candidats à l'élection présidentielle française, je veux dire, victime de ces fake news. Hein, donc,
un des soucis, c'est que tant que vous n'avez pas vraiment été victime, dans les saureuses en quelque sorte, vous n'en prenez pas complètement conscience. Et c'est là où moi, je propose qu'on change de doctrine, qu'on affirme une volonté forte de lutter contre ce phénomène, et qu'on y mette les moyens.
Ça
peut passer par la création d'une agence indépendante, une plateforme de défense informationnelle dans laquelle vous réunissez tous les moyens. Aujourd'hui, tout le monde a conscience du phénomène, sauf que ces moyens sont disséminés. Je vous mets au défi de me dire qui lutte contre les fake news en France. Est-ce que c'est le ministère de la Culture, de la Communication, des armées, des affaires étrangères, le CSA? Tout le monde, en réalité, le fait, mais chacun dans son coin.
Bah nous, les journalistes, quand même, aussi, parce qu'on essaye quand même, c'est notre rôle. Hein.
Et au combien, avec du fact-checking, qui est un retour, d'ailleurs, à l'origine même du métier, qui consiste à hiérarchiser, à aller vérifier les informations et en faire un récit. Sauf qu'avec la technologie, quand on arrive sur du fact-checking, on arrive parfois un peu trop tard, parce que les machines ont appris des mensonges, ont fait des mensonges, des vérités, parce qu'on leur a inculqué, il y a 2 ans de cela, et qu'il est beaucoup trop tard. Et comme le phénomène se démultiplie, malheureusement, vous le savez bien, les rédactions, elles, ne se démultiplient pas.
Bien sûr.
Et au contraire, le match devient vicié. Et c'est là où il faut coordonner les moyens, les bonnes volontés, les entreprises et les médias aussi, en leur donnant effectivement cette capacité de le faire.
Oui, mais en même temps, cette plateforme, elle disposera à quels moyens? Quand vous voyez que chez Facebook, qui à la limite dit que ce n'est pas à lui forcément de réguler les fake news, mais ils ont quand même 15 000 régulateurs pour lutter contre la barbarie surtout la barbarie en l'occurrence. Donc déjà, ils font des choses, mais est-ce que justement, ils devraient en faire encore plus?
Alors, ils font des choses, mais charge à une instance comme celle-ci d'aller pointer du doigt les réseaux, d'aller prendre à leur propre piège ceux qui manipulent les informations en les montrant du doigt. Quand vous avez des acteurs qui reprennent à leur compte des théories farfelues, il faut juste le dire à un moment, parce qu'ils ont un crédit et qu'ils en portent sur beaucoup de personnes.
Oui, mais regardez, le premier des fakers, on va dire, c'est Donald Trump. En l'occurrence, je crois que c'est le Washington Post qui a comptabilisé que depuis son élection, ça c'était à fin avril, il a émis 18 000 tweets qui étaient des fake news.
Bien sûr.
Ouais.
Et donc, effectivement...
Donc, vous voyez, si même le président américain s'y met, est-ce que c'est un peu compliqué?
Effectivement, au royaume des fake news, Donald Trump est son empereur. Et charge aux médias, et ils le font aux États-Unis, de pointer du doigt ce qui relève de la manipulation, de l'erreur et l'interprétation. C'est en cela que la technologie peut aider également en proposant des grilles de lecture. Si vous avez un site qui, un jour, fait une erreur sur l'âge de quelqu'un, sur un fait... On peut imaginer qu'il s'agissait d'une erreur, et d'ailleurs, la plupart du temps, ils s'en excusent après. Même quand ces erreurs sont grossières, on l'a vu récemment dans l'actualité. Si vous avez des sites qui systématiquement déforment cette vérité, on peut les repérer et imaginer qu'ils sont dans une phase de manipulation de l'opinion. Alors c'est assez insidieux, hein, parce que souvent ces sites vous prennent par la main, vous racontent de belles vérités et changent au fur et à mesure les choses et vous vous faites berner sans même le savoir.
Et donc rapidement, parce que j'ai encore deux questions importantes, sur la plateforme que vous proposez, comment est-ce que vous la voyez fonctionner justement pour contrôler ces fake news?
C'est de réunir les moyens, des analystes, des data scientists, des personnes qui savent repérer cela, qui vont pouvoir après saisir les tribunaux parce qu'il y a des lois et un arsenal qui permet aussi d'aller lutter contre. Et enfin, qui va mettre en place des moyens d'information et d'éducation. Ils existent déjà au sein du ministère de l'Éducation, mais comment vous les partagez au-delà des seuls enfants et étudiants?
Oui, c'est l'enseignement, et puis c'est lire votre livre peut-être. Non, mais c'est important de montrer qu'il faut avoir des gestes barrières. Un mot, stop Covid. Pourquoi ça ne marche pas en France? Pourquoi c'est un échec?
Alors parce que...
L'application, a priori, rien de dramatique, si?
Non, sauf qu'on met tellement de hers, de sécurité, parce qu'on veut bien montrer que c'est anonyme, qu'on ne va pas prendre vos coordonnées et autres.
On ne dépend pas d'Apple, qu'on ne dépend pas de ceci.
On vous met plein de panneaux, et honnêtement, au bout de la cinquième alerte, vous dites, c'est peut-être beaucoup payé. Et c'est vrai, et on l'a vu avec Stop Covid, on l'a vu avec le F-Data Hub récemment, dès que l'État pointe le bout de son nez, ça devient suspect.
Ouais.
D'où l'intérêt et l'importance de réunir des partenaires privés, la société civile et des personnes irréprochables par leur expertise, par leur expérience, pour garantir les libertés fondamentales, et c'est important dans une démocratie comme la nôtre.
La 5G, ici on en parle beaucoup forcément, mais la 5G, on voit bien qu'il y a des maires qui commencent à s'interroger en disant, mais attendez, est-ce que ça n'est pas, c'est pas très mauvais, c'est anti-croissance verte et transition écologique. Il y a une enquête qui doit être conduite pour savoir l'impact que ça a, puis en même temps vous avez le gouvernement qui maintient son calendrier. Où est le piège, j'ai envie de dire?
Vous avez aimé la 4G, vous allez adorer la 5G. On est un peu dans une histoire sans fin. D'ailleurs, on le voit avec la crise sur le coronavirus. 30% d'augmentation du trafic Internet. Je vous renvoie vers le rapport sénatorial de la semaine dernière montrant qu'il y a un impact sur la couche d'ozone et les gaz à effet de serre de 2% avec une projection à 7% à l'horizon 2040. Et la 5G arrive. Sauf que c'est une technologie, et c'est là où les opérateurs vont devoir en faire la pédagogie, qui permet de se déclencher uniquement quand il y a une demande et de ne pas asperger d'ondes en permanence. Et donc certainement, y a-t-il une voie de préservation de l'environnement et de son écologie personnelle? Et on le voit, il y a une aspiration forte à l'économie de soi-même et à l'économie des transports, du travail et à une certaine forme d'écologie de soi-même.
Oui, et puis on voit bien que même ça peut permettre de travailler chez soi, qui peut permettre de faire des économies par ailleurs. Donc,
c'est pour ça qu'il faudra bien mettre dans la balance ce qu'on gagne d'un côté en faisant rouler moins de voitures et peut-être en surfant un peu plus sur Internet.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
David Lacomblette. Donc, je rappelle le titre de votre livre, S'informer demain, lutter contre le virus des fake news. Et c'est donc collection en ligne, forcément, chez aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Et dans un instant, lui, la transition verte, il ne parle que de ça. C'est son business. Bertrand Camus, directeur général de Suez, est notre invité dans le RH.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Bertrand Camus, le patron, le directeur général du groupe Suez. Merci d'être avec nous, Bertrand Camus. Beaucoup, beaucoup d'actualités. Déjà, une petite indication que vous avez donnée sur l'impact du Covid sur votre chiffre d'affaires. On va en reparler. Il y a cette tribune que vous signez avec votre grand concurrent Antoine Frérot sur la croissance verte, en quoi c'est important. Et puis, évidemment, l'impact Covid sur votre business. Peut-être un mot d'abord, parce que vous êtes un des premiers à donner une indication sur l'impact de la de ce qu'on a traversé, de ce que vous avez traversé sur les comptes de Suez. Moins 6%, vous avez dit, vous en sortez plutôt bien.
Sur le premier semestre, effectivement, les indications que nous avons et nous avons souhaité pouvoir les communiquer à l'ensemble de nos parties prenantes, non seulement investisseurs, mais aussi c'est utile pour nos clients, nos équipes, de savoir là où nous en sommes. On a des situations assez contrastées d'une géographie à l'autre. Si je balaye rapidement la situation mondiale, donc la Chine est la première à être entrée et sortie de crise. Ça s'est stabilisé depuis à peu près 3 mois, début avril. Les chiffres que nous avions annoncés au moment du Q1 sur l'impact en Chine se confirme. Par contre, ce que l'on constate, c'est que le niveau auquel nous nous stabilisons est en dessous des historiques. On n'a pas encore atteint les volumes d'affaires de 2019, pour prendre cette référence, ce qui est logique à partir du moment où le commerce mondial est ralenti, il y a moins de production, et donc ça a un impact sur nos activités qui sont complètement liées aux activités économiques. L'Europe, elle, a décéléré pendant le deuxième trimestre, donc avec une forte chute en mars-avril, et puis un rebond progressif en mai-juin, avec des situations très contrastées d'un pays à l'autre, avec la France qui est celle qui a plongé le plus fort, mais qui aussi est remontée à peu près au niveau historique sur les quelques dernières semaines de juin. Maintenant, la question est de savoir, en deuxième partie d'année, il y a certainement eu des effets de déstockage, de rattrapage, à quel niveau on va s'établir. Et là aussi, ce que l'on entend, c'est qu'on devrait être quand même en dessous des niveaux historiques. Et les points chauds aujourd'hui, ce sont d'abord l'Amérique latine, cumul Covid, crise économique, et hiver. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps, donc notamment nos exploitations au Chili. Et je remercie les équipes qui font un boulot fantastique pour arriver à maintenir la continuité des services. Mais c'est un de nos endroits
compliqués. C'est moins combien là-bas? C'est un moins un tiers? C'est quoi?
On est de l'ordre de 10-12% sur nos volumes. Et puis les États-Unis, alors on est en pleine pandémie. On parlait de deuxième vague, je pense qu'ils sont toujours dans la première, quand on regarde concrètement les chiffres. Par contre, l'activité se tient plutôt bien et c'est certainement lié à nos activités sur ce territoire et les business models que nous avons qui sont plutôt résilients.
Mais en même temps, j'imagine que là il y a un problème avec vos personnels aux États-Unis. Comment vous gérez ça? Chômage partiel et puis surtout il y a des gens qui ne doivent pas venir travailler.
Alors c'est une caractéristique du groupe, c'est qu'il n'y a pas un seul site qui s'est fermé pendant toute cette période. Nous sommes vraiment dans des métiers essentiels. Il faut que l'eau continue à arriver.
L'eau, l'environnement et les déchets, on va
rappeler. Le collecte des poubelles, il faut que tout ça fonctionne. Donc ce que nous avons fait, c'est pris des mesures de précaution pour protéger nos équipes. C'est la première priorité. Donc en gros, c'est diviser les équipes pour éviter qu'elles se croisent et toujours avoir une équipe opérationnelle pour pouvoir faire tourner les installations. Il y a d'autres mesures, utiliser le télétravail autant que possible.
Oui, parfois c'est difficile.
Aussi pour protéger, mais on a très bien réussi à basculer sur le télétravail. Et en fait, on a aussi bénéficié d'être un groupe mondial qui a d'abord testé ses protocoles de continuité d'activité en Chine. Ça nous a donné des leçons pour l'Europe et maintenant ça s'applique en Amérique latine. Juste un indicateur, au pire de la crise en Europe, on était à 85% d'activité de nos salariés, 25% télétravail, 60% sur le terrain, et les 15% restants, il y avait 10% de télétravail et 5% raison médicale, protection de personnes fragiles. Donc un très bon niveau d'activité de nos équipes, et encore une fois un grand merci à eux pour cette mobilisation.
Et comment ça reprend? C'est-à-dire qu'en Chine, vous avez dit, on n'est pas encore au niveau historique, mais si par exemple c'est comparable à 2017, à 2018, première question, et est-ce que vous voyez différence de reprise entre la Chine, l'Europe, la France, comment ça se passe?
Les deux grands paramètres qui jouent, c'est les secteurs d'activité dans les géographies dans lesquelles nous sommes présents. Donc si je prends par exemple le secteur du transport aérien, de l'automobile, du tourisme, ça a forcément un impact sur nos activités, puisque nous sommes à la fois en entrée et en sortie, ou dans la boucle d'économie circulaire. Donc c'est très variable d'un pied à l'autre. Par exemple, l'Espagne, qui est très dépendante du tourisme, tourisme. On enregistre par exemple sur l'eau des baisses de volume de l'ordre de 10%, alors qu'en France, on est plutôt à quelques pourcents de différence. Donc on a un peu ce mix d'activités, mais globalement, nous sommes très résilient, puisqu'on parle de 6% de baisse de chiffre d'affaires, et là où nous avons des variations, c'est très lié en fait à la façon dont les activités se reprennent. Et à partir du moment où on prévoit que notamment le tourisme, les voyages internationaux vont quand même être fortement réduits pendant une période de 6 mois à 1 an, ça a certainement un impact sur nos volumes.
Ouais. Combien ça vous estimez que ça vous a coûté, justement la gestion de ce qu'on appelle protocole sanitaire, mais ça va évidemment encore un peu plus loin, quoi. Combien ça vous a coûté de gérer cette crise pour vos salariés ?
Alors d'un côté, on a communiqué ces chiffres avant-hier pour l'ensemble des parties prenantes et en particulier les investisseurs. Donc l'impact Covid est estimé. Alors il y a un impact volume lié à la baisse de l'activité. Puis après l'exceptionnel, c'est à peu près un peu plus de 200 millions d'euros sur le premier semestre, qui sont à la fois des surcoûts supplémentaires sur la mise en place des protocoles de sécurité, aussi des pertes d'opportunités sur certaines affaires, le fait que des chantiers s'arrêtent par exemple. Et de l'autre côté, on a été capable aussi de prendre des mesures d'économie exceptionnelles, comme le ferait n'importe quel ménage face à la difficulté. On a coupé des coûts de façon conjoncturelle, et donc c'est ce qui amène au résultat que nous avons annoncé avant-hier soir.
Oui. Les comptes trimestriels, ça va être le 30 juillet.
Oui, c'est fin juillet, tout à fait. Oui.
Donc c'est on sera dans la même épure à peu près.
Oui, tout à fait. Enfin, sur ces premiers paramètres que nous avons à communiquer, bien entendu, nous serons dans la même épure et tout ça doit être confirmé à la fin du mois de juillet.
Mm-hmm. Vous attendiez à ce que ça soit pire ou pas ?
Très honnêtement,
vous êtes dans l'incertitude comme bon nombre de chefs d'entreprise.
Je dirais qu'on a été bien entendu très attentifs, très concentrés de part. C'est quand même une crise d'une nature exceptionnelle. On n'a jamais vécu ça. On a vécu des crises locales, des événements météorologiques, des épidémies locales. Mais au niveau mondial, ce qui nous a donné une lueur d'espoir, c'est la Chine en fait, parce qu'on a vu que même si on n'a pas encore toute l'histoire, le recul sur l'histoire. Voilà, on a vu l'arrêt de l'activité, la reprise de l'activité et surtout la capacité de nos équipes à transiter dans ces temps difficiles, de se protéger. En Chine, on a 10 000 collaborateurs. On n'en a eu qu'un seul hospitalisé qui en est sorti sain et sauf. Donc ça montrait aussi qu'avec les bonnes mesures, on était capable de faire face à cette situation assez exceptionnelle.
Deuxième vague en Chine, vous la sentez chez vos collaborateurs ou pas ? Est-ce qu'elle est là ?
C'est confiné en fait. Confiné, c'est localisé. Il y a tous les dispositifs qui ont été mis en place, à la fois de tests, de traitement local du virus. Je pense que c'est le genre de mesures qu'il va falloir aussi envisager et qui sont prévues en France. On ne va pas pouvoir faire un deuxième confinement global.
Général,
donc il faut pouvoir anticiper.
Oui, mais les remontées, ce qui vous remonte, c'est il y a un vrai.
Aujourd'hui, le business a repris en dehors de la région de Pékin, où il y a quelques difficultés. Sur le reste, c'est, je ne dirais pas business as usual, mais ça a repris quasiment par.
Sur l'obligation éventuelle d'avoir des entreprises de stocker des masques, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah ben nous, on le fait déjà, on le faisait avant, parce que beaucoup de nos activités nécessitent le port d'un masque, de traitement des déchets hospitaliers, station d'épuration. Donc là, il y a eu.
Donc c'est possible.
Stocker des masques. Voilà, je pense que tout le monde a fait l'effort de trouver des masques pour pouvoir redémarrer.
Ouais. Non, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent, alors notamment c'est vrai, plus des PME qui disent, nous, c'est pas notre job de faire ça, ça coûte cher, etc. Vous dites, c'est gérable. Le coût, il est très élevé ou pas pour une entreprise d'avoir son propre stock de masques ?
Ou à peu près le coût d'un masque. Donc c'est tout à fait. Enfin, en tout cas, les chaînes logistiques existent. Autant on a eu des difficultés au mois de mars, autant aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème particulier.
Bertrand Camus, vous signez, je le disais ce matin, une tribune, c'est assez drôle parce que vous êtes vraiment les deux frères ennemis, Antoine Frérot, le patron de Veolia, et puis donc vous, le patron de Suez. Souvent, en général, on vous voit plutôt en train de ferrailler plutôt que d'écrire quelque chose ensemble. Vous dites, nous dirigeons les deux groupes français leaders dans les domaines de l'eau et de l'environnement. La croissance, la percée verte aux élections municipales, en fait, il faut la saluer. C'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous. Mais d'abord, pourquoi vous faites ça avec Veolia ?
Nous vivons un moment historique.
Oui, c'est historique, hein, cette tribune.
C'est
historique.
Donc, nos sujets environnementaux sont là, sont présents dans le débat depuis plusieurs années, que ce soit de l'attente des citoyens, qui ont été confirmés d'ailleurs dans les urnes dimanche dernier, mais aussi si on regarde par exemple la finance verte. Moi, j'étais fin février, avant le shutdown, en roadshow aux États-Unis, on passait son temps à parler critères ESG, des entreprises. Comment est-ce qu'on prend en compte l'aspect vertueux des politiques ESG des entreprises pour voir leur valorisation, les attentes citoyennes, voilà, le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Donc tout ça est là. Nous sommes des avocats, bien entendu, de l'investissement dans ces sujets-là, du développement dans ces sujets. Et voilà, donc nous avons considéré qu'en tant qu'industriel des services à l'environnement, c'était le bon moment pour prendre une position forte sur ce sujet, au moment où on discute de plan de relance et d'investissement pour préparer le monde de demain, comme on dit, que les sujets, nos sujets, ceux de l'eau et de l'économie circulaire soient pris en compte. Alors nous avons salué les résultats de la Convention citoyenne sur ces sujets, bon, voilà, qui font des propositions, la prise de position du président de la République. Nous avons par exemple remarqué que l'eau était un sujet qui était très peu mentionné, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau du Green Deal, au niveau des plans de relance français, au niveau, voilà, de ce qui ressort, parce que peut-être que nous faisons trop bien notre travail, je ne sais pas, l'eau n'a pas l'air d'être un souci.
C'est un sujet pour Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Pour lui, c'est un gros sujet. Voyez.
Alors qu'en fait, si on anticipe l'impact du changement climatique sur les débits d'étiage des rivières, moins de ressources disponibles, il faut penser à investir dès maintenant pour pouvoir assurer la pérennité de ces services publics essentiels, qui ont bien montré aussi toute leur utilité dans cette phase Covid.
Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, à votre avis? Justement, qu'est-ce que vous demandez? Vous dites, vous voyez, vous félicitez, vous dites une bonne nouvelle, mais il faut aller plus loin. Mais dans quoi les investissements? Il y a déjà des investissements importants, puis ils sont faits par les collectivités locales.
Aujourd'hui, si on regarde les 10 dernières années, si je prends le sujet de l'eau, en gros, en France, on investit de l'ordre de 6 à 6 milliards et demi, tout confondu, réseau, station d'épuration, station de traitement d'eau. Il y a eu les assises de l'eau, il y a 2 ans. Le chiffre auquel on est arrivé, à la fois pour s'adapter au changement climatique, donc moins de ressources disponibles, aussi mieux traiter nos effluents, on pourra peut-être parler du virus présent dans les eaux usées, tout ça, ce n'est pas une fatalité, c'est juste que nos traitements ne permettent pas de l'arrêter alors que ces traitements existent. Quand on regarde l'ensemble de ces besoins d'investissement, on arrive à peu près à 9, entre 8 et 10 milliards, 8, 5 et 10 milliards par an. Donc il y a un besoin d'investissement supplémentaire constant sur le temps, donc ça c'est une première chose. Sur l'économie circulaire, la même chose sur, on parle du recyclage du plastique, de la valorisation de la matière, mais se baser uniquement sur des mécanismes de marché n'est pas suffisant. Et donc nous avons estimé que si on voulait vraiment faire un saut, et la France peut vraiment devenir le leader de cette transition environnementale, il faudrait investir en plus de ce qui est fait en régime permanent de l'ordre de 25 à 30 milliards d'euros. C'est pour ça que nous avons pris, sur 5 ans, c'est pour ça que nous avons pris prise de position pour pouvoir manifester notre soutien, mais aussi notre disponibilité à ce que ça se fasse.
Je vais revenir sur ce point. Juste parce qu'effectivement, on a vu que le virus, on l'avait vu dans deux endroits, je crois, ou trois endroits, peut-être plus, si. Enfin, officiellement, j'ai envie de dire, on l'a vu dans peu d'endroits. Est-ce que dans l'eau, j'entends. Est-ce que finalement, c'est arrivé plusieurs fois? Enfin,
alors,
souvent.
En fait, tout ce qui est eau potable, il n'y a pas de souci parce que c'est un virus comme un autre et il est éliminé par les barrières qui sont mises en place dans les traitements. Donc, c'est comme le virus de la grippe, c'est comme tous les autres virus, il est détruit. Donc, il n'y a aucun souci au niveau de l'alimentation en eau potable. Par contre, les traitements qui sont ceux que nous avons aujourd'hui sur le territoire national, qui sont des traitements biologiques et chimiques, ne permettent pas l'élimination des virus, celui-ci comme tous les autres virus. Et donc, il a été
dans les eaux usagées.
Dans les eaux usagées, donc ce qui repart dans les rivières ou dans les océans.
Ou dans l'eau.
Mais comme tous les autres virus. Et donc, la question est, est-ce que l'on souhaite investir dans des usines plus performantes parce que le milieu naturel va être de plus en plus fragile?
Oui, mais ça, c'est votre job, Bertrand Camus, non?
Mais nous, on a les technologies.
Mais pourquoi vous le faites pas?
C'est une décision de l'État et des collectivités.
pourquoi c'est une décision de l'État, puisque les collectifs, vous pouvez le faire, puisque c'est votre job. Non, c'est ça que je ne comprends pas.
C'est une question de réglementation et de... Par exemple, la Suisse a décidé d'investir dans ces technologies, donc l'ensemble des stations d'épuration... Elles ne nous appartiennent pas, les stations d'épuration.
Mais c'est vous qui faites le traitement, on est d'accord.
Donc ça doit bien faire partie des politiques d'investissement des collectivités et des États de passer à ces traitements supplémentaires.
On a l'impression que c'est plutôt celui qui gère ces traitements qui doit faire cet investissement.
Nous travaillons sur la base de contrats, donc il faut qu'on soit d'accord avec nos clients que ces investissements sont à réaliser. Et deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est des systèmes...
Et pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout.
Aujourd'hui, très sporadiquement, on a une très belle référence sur le bassin de Thau, à 7, ouais, où la collectivité a décidé de prendre ces traitements, qui sont des membranes et de l'oxydation, de l'ozone, de façon à éliminer les virus. Et aujourd'hui, la station d'épuration du bassin de Thau, d'agglomération de 7, sera équipée avec ces technologies.
Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez généraliser?
Nous pouvons le proposer, mais encore une fois, faut-il que cela soit retenu par nos clients. Le deuxième sujet sur lequel on travaille...
Est-ce que vous l'avez proposé systématiquement? Et systématiquement, les collectivités locales vous disent non?
Pas systématiquement, puisqu'on a l'exemple de Thau.
Je vous souhaite d'en avoir plusieurs,
C'est pour ça que nous prenons cette position. Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons, c'est aussi d'utiliser les traces du virus dans les eaux usées pour servir de détecteur de la reprise éventuelle de l'épidémie. Donc c'est un réseau sentinelle. Donc on a énormément travaillé sur les protocoles de détection, puisque en fait le virus est un peu une aiguille dans une botte de foin. Vous avez quelques traces d'ARN dans des litres d'eau. Donc comment être sûr que nous avons la présence du virus, et à partir de modélisations mathématiques, savoir si le virus est en train de redémarrer ou pas. Et c'est quelque chose que nous visons d'avoir mis en place avec l'ensemble de nos partenaires à l'automne, de façon à pouvoir utiliser ces éléments pour servir de détecteur.
Est-ce que le fait, c'est une question, je sais que vous n'aimez pas, mais c'est une question aussi assez rituelle, d'avoir signé ça avec Veolia, vous êtes les deux plus grands groupes mondiaux, s'il n'y a pas un moment l'opportunité d'en faire qu'un?
C'est la question qui revient tout le temps.
Vous la connaissez déjà, celle que je vais poser après.
Non, mais je pense que justement, nos métiers qui sont très locaux, puisque encore une fois, on discutait auparavant sur cette question du traitement et la décision locale de faire ou ne pas faire, d'une certaine façon, par rapport à d'autres secteurs industriels, je pense qu'il est important de parler avec une voix d'industriel. Et donc, c'est ce que nous avons voulu manifester dans cette tribune. Encore une fois, nous avons des centaines de millions de clients à travers le monde, nous maîtrisons toutes les technologies, nous avons quasiment 300 000 collaborateurs. Et enfin, avoir les deux leaders mondiaux du sujet qui parlent d'une seule voix d'un point de vue industriel nous a paru absolument nécessaire dans cette phase.
Voilà, mais en tous les cas, ça n'ira pas plus loin. Alors la deuxième question, je la pose tout de suite, comme ça ça sera terminé. Est-ce que ça ne donne pas, parce que c'est vrai que cette transition verte montre bien que vous êtes au cœur de cette transition verte ou écologique, Bertrand Camus, avec le groupe Suez, est-ce que ça ne peut pas donner des envies à Engie, qui sert votre ex-maison mère, mais enfin qui reste aujourd'hui quand même votre principal actionnaire? Et c'est une question rituelle de savoir si Engie a envie de mettre la main ou pas sur Suez. Là, vous êtes un vrai business, au moment où Engie se cherche un peu.
Encore une fois, la question est à poser à Engie sur leurs intentions. Nous restons sur ce qui a été décidé fin 2018, stabilité, coopération,
soutien.
C'est avec
quelqu'un qui a été viré.
C'est le conseil d'administration, d'Engie qui a pris cette décision. Et aujourd'hui, nous constatons à la fois le soutien, notre plan stratégique a été approuvé, l'ensemble, nous avons un accompagnement très fort dans cette phase-là, et puis des collaborations intéressantes. La dernière fois que j'étais venu vous voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un contrat dont je ne pouvais pas parler parce qu'il sortait le lendemain, c'était la Smart City à Angers.
Oui.
Voilà, et donc c'est typiquement une collaboration dans laquelle nous avons réussi à mettre nos forces ensemble pour un projet très innovant.
Oui. Merci, vous faites la transition. Ça fait un an que vous êtes là, Bertrand Camus, vous avez été arrivé, vous avez présenté votre plan stratégique. Ce monde d'après, puisque vous êtes au cœur de ce qui va se passer, comment est-ce que vous appliquez votre modèle stratégique à cette nouvelle carte verte?
Alors, il y a dans le plan, il y a tout un volet proposition de valeur, solutions pour nos clients, où on voit bien qu'on va être un accélérateur de la transition environnementale, et pas seulement être un bon traiteur d'eau, un bon distributeur d'eau, et donc être capable de prendre beaucoup plus d'éléments et de valoriser plus d'éléments dans nos offres. C'est pour ça que, par exemple, l'exemple dont on parlait précédemment, Angers, la Smart City, c'est pas seulement le fait de pouvoir mieux gérer les utilities de la ville, de mieux les contrôler, d'être performant, mais c'est aussi être capable de mesurer en direct l'impact de ces utilities sur les engagements de développement durable.
Toute la numérisation, c'est très important.
Voilà, exactement. On a l'exemple à Dijon, qui est la première Smart City à avoir démarré, qui est très intéressante parce qu'en fait, elle a été testée en phase Covid, donc c'était un vrai test acide qui a démontré la pertinence de ce type de solution. Donc, on a tout un volet donc de réorientation de nos offres. Comment est-ce que l'on investit ?
Plus pointu, non ? Enfin, plus technique, on va dire.
Non. Il y a de la technicité. Ouais. Comment est-ce qu'on prend la question du carbone dans nos offres et de l'impact carbone, l'impact biodiversité, les questions santé, qualité de vie, les questions sociales aussi, l'impact social qui est très, très important, en particulier dans les années qui viennent avec les conséquences de la crise. Donc il y a tout ce travail qui est fait. Au niveau de la réorganisation du groupe, qui est un élément important à la fois pour gagner en agilité, mais aussi pour aller chercher de la performance, on avance et on voit des opportunités liées à cette situation pour aller plus vite sur certains aspects.
Acquisition perspective, c'est ça que vous nous dites ?
Alors, c'est à la fois sur nos modes de fonctionnement. Voilà, le télétravail, c'est quand même un bouleversement. Et on a fait des enquêtes en interne auprès de nos équipes, deuxième quinzaine de mai. Le télétravail est plébiscité. Alors, j'y crois pas pour tous les jours, tout le temps, mais non. Être capable d'alterner sur les deux, puis de aussi de changer la façon dont on travaille avec nos clients. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion tous les jours ? Enfin, tout ça a beaucoup d'implications et ça nous permet d'aller certainement plus vite sur ces transitions. Et puis, il y a effectivement la capacité à aller chercher des affaires. Ce que nous faisons, nous avons signé de beaux contrats en Ouzbékistan, en Angola, et donc nos besoins sont là. Donc, en fait, on déroule notre plan avec...
Oui, mais est-ce que du coup, vous déroulez votre plan, d'accord, mais il se passe quelque chose, il y a une prise de conscience. Mmh. Vous-même, vous l'avez souligné dans cette tribune, encore une fois, la percée verte, la transition écologique, la convention citoyenne. Je parle pour la France, mais c'est un mouvement qu'on retrouve partout. Est-ce que du coup, ça ne vous donne pas envie d'accélérer sur certains points de votre stratégie ? Voilà.
La situation et les événements, et je ne mettrai pas seulement ça sur le Covid, mais ce qui se passe depuis 6 mois, 1 an, voilà, quand on a des grands groupes industriels qui s'engagent sur de prendre du plastique recyclé, etc. Enfin, ce sont des changements très importants au cours de ces derniers mois. Donc la somme de ces changements valide la pertinence de notre plan et effectivement nous pousse à accélérer pour être au rendez-vous de ces attentes là où nous le pouvons. Donc c'est clairement un de nos objectifs d'aller plus vite dans cette transformation de façon à répondre aux attentes de nos clients.
Je disais, vous avez été, je crois que c'est le 14 ou le 19 mai que vous êtes l'année dernière, que vous avez pris vos fonctions, le 14 mai. Quand on se trouve confronté, alors qu'on n'a même pas une année de direction d'un grand groupe derrière soi, comment on traverse cette période ? C'est une touche un peu plus personnelle, Bertrand Camille, mais peut-être c'est intéressant de voir quelles étaient vos réactions quand vous avez vu que le monde s'arrêtait.
C'était un sentiment, en même temps, comme j'ai vécu beaucoup de crises à l'international, j'étais en Malaisie en 97, en Argentine en 2000, les États-Unis en 2008, donc la crise, encore une fois, j'en ai vu pas mal, des crises opérationnelles quand vous coupez l'eau à 3 millions d'habitants et vous savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir redémarrer, bon voilà, vous avez des réflexes de gestion opérationnelle, et donc ce qui a été très important, c'est de tout de suite prendre le manche, de mobiliser les équipes. On avait un call avec le COMEX tous les soirs pour faire un point de la situation mondiale, même s'il n'y avait pas de nouvelles, c'était pas grave, il fallait maintenir les équipes. Je suis allé sur le terrain toutes les semaines, j'ai fait une visite par semaine pour aller voir ce qui se passait parce que j'avais besoin de me rendre compte que les décisions qu'on prenait étaient appliquées sur le terrain. Et donc, non, ça a été effectivement, il y avait par moments des moments de doute où on se dit comment ça va finir. Mais quand on voit la mobilisation des équipes, que ce soit dans les métiers de l'eau, dans le métier des déchets, des gens à 5h du matin qui montaient dans leur camion pour aller ramasser les poubelles, ça donne de la force et de l'énergie pour être au rendez-vous et à la hauteur de ce que notre groupe avait besoin.
2020, ça va être une année noire pour le groupe, non ? Plutôt une année...
Une année difficile, donc qu'il va falloir oublier assez rapidement pour repartir de l'avant.
Mais il n'y a pas d'autres restructurations en perspective ?
Non.
Non. Non, mais c'est important parce qu'on voit qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Mais vous l'avez déjà anticipé lors de votre plan stratégique que vous avez annoncé lorsque vous êtes arrivé.
Tout à fait.
Oui, c'est ça qui sert. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Bertrand Camus, le patron du groupe Suez, directeur général de Suez. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve lundi, en l'occurrence, demain, les best-of, les meilleurs moments, vous pourrez réécouter. Et puis dimanche, BFM Politique. Et puis sinon, lundi. Je vous souhaite une très très bonne journée.